Merci de votre fidélité à Radio Capilla, fréquence de la paix. Merci de suivre votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. On va parler avec notre invité qui est déjà dans ce studio, ingénieur Bizaboya, qui est acteur de développement. Avec lui, on va parler de comment aider la femme paysanne à se développer. Ingénieur Bizaboya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a quelques embouteillages, mais vous êtes là. Merci beaucoup.
Ok, je suis là. Voilà. Bonjour et merci beaucoup et bonne journée à tous nos auditeurs.
C'est bien cela, c'est bien ça. Voilà, si vous êtes intéressé par rapport à ces sujets sur comment aider la femme paysanne à se développer, vous pouvez nous appeler au 0 81 890 60 94. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook au Capi Service ou encore nous envoyer un SMS au 0 81 711 50 01. En RDC, la femme paysanne est très active dans les activités champêtres et aussi dans le petit commerce, ce qui lui permet de jouer un rôle majeur dans la survie de la famille, mais aussi de la communauté. Cependant, celle-ci est confrontée à de nombreuses difficultés pour s'y développer. Que faire alors pour promouvoir les développements de la femme paysanne? Je le disais, nous avons avec nous un acteur de développement, ingénieur Bizaboya, avec qui on va aborder cette question. Alors, dites-nous, ingénieur, la femme paysanne, on le sait, elle joue un rôle très très actif, hein, parce qu'on les voit dans les activités maraîchères, on les voit dans les petits commerces. Est-ce qu'il y a moyen d'aider la femme paysanne à se développer, c'est-à-dire à avoir une sécurité sur tous les plans, c'est-à-dire sur les plans financiers, sur le plan social, c'est possible?
Oui, effectivement, le gros problème, c'est celui-là d'ailleurs. D'abord, on va rappeler que cette femme que nous appelons femme paysanne, dans l'ensemble du territoire national, elle constitue presque le 90% de la population active dans notre pays. Et sa première difficulté qu'il faut épingler, c'est l'accès à la terre. Parce qu'on ne peut pas être paysan ou paysanne sans avoir cette matière première qui est la terre. Dès lors qu'elle a la terre, elle se sent sécurisée. Et une fois elle a cette terre-là, en ce moment-là, c'est à elle de pouvoir transformer cette terre-là par son travail. La production agricole, que ça soit au niveau de cités ou de villes, vous avez l'activité maraîchère, mais le plus souvent, cette femme, tout ce qu'elle demande, c'est plutôt avoir cet accès à la terre.
Il y a des problèmes pour des femmes paysannes à avoir accédé à la terre. Il y a un problème par rapport à cela?
Oui, un énorme problème. Vous devez d'abord retenir que ça soit dans notre société est organisée sur base de clans.
Oui.
Et que chaque clan possède sa propriété foncière. Dès lors que le nombre de gens dans ces clans-là devient assez important, et ça crée des disputes à l'intérieur. Et imaginez maintenant une femme qui vient en mariage dans une famille où il y a déjà un excédent de gens, ça veut dire que elle entre dans ces milieux-là avec un nouveau problème.
Oui.
Donc la terre. C'est comme ça d'ailleurs, vous allez imaginer que ça soit au niveau le plus élémentaire, c'est-à-dire dans nos villages, là où on trouve justement ces paysans-là, la terre c'est la première richesse qu'il faut protéger. Et dès lors qu'on n'a pas cette première richesse-là, c'est fini, tout le reste est gâchis. Et aujourd'hui, quand vous posez la question, la femme paysanne joue un rôle actif. Oui, nous le confirmons, elle joue effectivement un rôle très important dans la société. Et vous verrez qu'elle détient pratiquement l'économie de la société.
Oui.
C'est elle qui détient l'économie de la société par sa production, ses activités commerciales. Et même alors, lorsqu'elle produit, prenons le cas le maïs ou le manioc, elle doit garder ça. Le commerce, c'est plus le travail des intermédiaires. L'intermédiaire peut être son propre mari ou d'autres personnes qui viennent faire les achats dans ces milieux-là ruraux. Donc vous imaginez que pour que cette femme-là puisse atteindre un niveau d'épanouissement ou de promotion, il faut qu'il y ait des paramètres assez importants pour amener cette femme-là à pouvoir bénéficier de son travail.
Enfin, vous avez dit qu'il faut d'abord aider la femme à accéder à la terre.
Ça, exactement.
C'est d'abord un premier problème. Et ensuite, la femme accède à la terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut ensuite faire? Et comment la femme paysanne peut s'organiser pour pouvoir se développer?
Ok. Dès lors que elle a droit déjà à cette terre-là. Oui. Elle produit grâce à des semences qui sont, disons, les protégées au niveau traditionnel ou même avec l'interconnexion avec d'autres semences importées. Le problème, c'est le marché de vente. Parce que ça soit au niveau du village, lorsque ils ont produit en grande quantité, s'il n'y a pas écoulement de produits, ça signifie qu'ils travaillent à perte. Et à ce moment-là, vous imaginez des produits périssables qu'ils produisent s'ils ne sont pas vendus, mais fatalement, ils sont découragés.
Parce que bien souvent, à cause du mauvais état de route, agricoles, des fois, des produits qui pourrissent dans les villages, faute de pouvoir être acheminés dans les centres urbains.
Voilà. Donc, lorsque nous disons le marché, ça signifie qu'il faut désenclaver le milieu de production.
Ouais.
Dès lors que ces milieux de production sont désenclavés, en ce moment-là, il y a facilité d'accès vers le milieu de production. Pour atteindre le milieu de consommation.
Oui.
Voilà. En ce moment-là, la loi de l'offre et de la demande, créant son équilibre, la paysanne est à mesure de vendre ses produits avec beaucoup d'aisance et à des prix assez abordables. Et elle peut garder maintenant une économie en soi, dans son ménage, et elle peut épargner et faire face à des besoins de la famille.
Mais il y a également des coopératives. Est-ce que le fait de s'organiser en coopérative peut également aider la femme paysanne à s'y développer?
Oui, bien entendu. Ça, le problème, lorsqu'on a un problème dans une communauté locale, on essaie de résoudre ce problème-là sur base de ce qu'on a comme capacité.
Oui.
Et la coopérative, c'est justement une des voies de sorties qui permettent à cette communauté-là de pouvoir mettre ensemble leurs énergies pour résoudre le problème dont ils le problème qui se pose dans leur milieu. C'est comme ça que nous disons, lorsqu'ils ont produit abondamment et lorsqu'ils se mettent ensemble, ils créent des unions coopératives, en ce moment-là, la coopérative sera chargée justement de pouvoir canaliser l'écoulement de ces produits-là vers les centres de consommation ou même de transformation. Il n'y a pas que le commerce. Elles peuvent aussi, à leur niveau-là, créer des unités de transformation agroalimentaire pour pouvoir alimenter le milieu de consommation.
Est-ce qu'au niveau de paysans, par exemple, est-ce qu'il leur est facile d'accéder, par exemple, au crédit?
Ça, l'aspect financier, c'est l'un des problèmes à côté de la terre. L'accès au financement demeure un problème crucial. Parce qu'au départ, les banques ou le microfinance ont des exigences. Ils ne peuvent pas accorder facilement un crédit à un individu. Ils préfèrent que les gens se regroupent. Plus vous êtes regroupés, plus vous gagnez. Et la banque vous fait confiance. C'est comme ça que, avant même qu'ils aient cet accès au financement, d'abord il y a l'accès à l'information. Est-ce qu'ils savent que quelque part, nous pouvons avoir le financement? C'est comme ça que nous pensons que Radio Okapi, parmi tant d'autres radios, peut-être dans des milieux ruraux, il y a des radios communautaires. C'est à partir de vous, le média, que ces gens-là sont informés que quelque part, il existe une institution de microfinance, les IMF, auxquelles les gens peuvent aller solliciter du crédit. Et vous savez aussi que l'activité agricole est une activité, en fait, très flottante. Même les institutions de microfinance ou les banques n'ont pas tellement confiance à ces activités-là. Parce que, prenons le
Pourquoi?
Cas... Non, prenons un cas très simple.
Oui.
Vous avez 10 hectares à cultiver.
Oui.
Mais ça vous demande justement du travail qui, par exemple, va représenter, prenons le cas, 500 000 francs congolais. C'est un chiffre banal.
Oui.
Mais alors, lorsque vous allez maintenant rendre exploitable cet espace-là de 10 hectares, vous allez mettre les semences. Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ça dépend de quel produit vivrier vous aurez semé. Et à la fin, quand vous récoltez, vous aviez eu une idée que le rendement serait, par exemple, je vais gagner 5 millions de francs congolais. Mais lorsque la vente arrive, d'abord la récolte, et puis vous vendez, vous voyez que vous avez vendu à 2 500 000. Vous avez déjà une perte de 2 500. En ce moment-là, une banque qui s'engage à vous accorder un tel crédit doit aussi avoir de réserves. Parce qu'il ne sait pas à quel niveau le produit que vous mettrez sur le marché pourront tous être vendus. Donc c'est une difficulté majeure. C'est comme ça que les banques, vis-à-vis des activités de production agricole, elles émettent souvent de réserves. Et cela pose un sérieux problème aux exploitants agricoles, notamment le paysan.
Alors que l'accès à ces financements pouvait également aider à les paysans, particulièrement la femme paysanne, à pouvoir accroître sa production. Mais bon, peut-être comme vous l'avez dit, il y a tous ces risques. Hein, et les banquiers, souvent, ils n'aiment pas trop risquer. Voilà. Donc, merci. Donc là, c'est des questions qui viennent de nous parvenir, des questions posées sur notre page Facebook. On va découvrir ces questions avec notre invité ingénieur Bizaboya, acteur de développement. Avec lui, on est en train de parler comment aider la femme paysanne à se développer. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez nous appeler au 081-890-6394. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook au Capis.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Voilà, Fiston Bakajika nous écrit ceci. Ces femmes dans les secteurs informels fuient les tracasseries, vivent leur petit capital. Il faut les exonérer de certaines taxes et également des impôts. Ça, c'est la bonne manière de les aider. Qu'est-ce que vous dites? Comment réagissez-vous par rapport à ces propos de Fiston Bakajika?
Oui, chers frères, compatriotes Bakajika Fiston, c'est vrai que les femmes paysannes, très souvent, quand elles ne sont pas structurées, c'est dans l'informel. Or ici, pour aller dans une banque, comme je l'ai dit, la banque a ses exigences, il faut avoir des documents légaux, et à partir de ces documents-là, vous êtes repéré. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra vous apporter un appui financier. Donc, une banque ne peut pas traiter avec un individu qui ne sait pas identifié et qui ne sait pas aussi contrôler. Parce qu'après tout, la banque doit vous identifier et vous contrôler parce que vous aviez pris auprès de lui de capitaux frais. Alors, si ces femmes paysannes ne sont pas structurées, ça pose déjà une difficulté sérieuse et majeure même. C'est comme ça que nous leur conseillons de s'organiser en type coopérative paysanne ou des organisations paysannes, comme on appelle dans le jargon des OP. Et ça, c'est plus simple. Tout village, sur le plan étatique, constitue déjà une organisation paysanne parce qu'il y a des ménages là-bas. Vous avez... Même un ménage, c'est déjà une organisation paysanne. Vous avez le père, la mère et les enfants, au minimum 7. Ils sont déjà au nombre de 9. C'est une structure qu'ils peuvent s'organiser. Ils ont des documents. Ils se présentent auprès de l'entité politico-administrative qui est le village pour se faire valoir. Et en ce moment-là, lorsqu'ils ont leurs documents pour signifier que nous sommes dans un village X, dans tel territoire, dans telle province de la République... En ce moment-là, la banque ira vers eux à travers ses experts qui sont sur le terrain pour pouvoir accorder à ces ménages-là un crédit.
Voilà, on va poursuivre avec d'autres questions, mais il est temps pour nous d'accorder la parole à Michel qui est, excusez-moi, en ligne depuis Kamina. Michel, bonjour. Ah, Michel n'est plus là, on va le retrouver. Alors, on poursuit avec des questions posées sur la page Facebook. Il y a Richelin Makwaya qui écrit depuis Kinshasa, il dit ceci: je pense que ces femmes doivent être encadrées spécifiquement afin d'élargir la vision de leurs activités respectives. De l'encadrement, c'est très très important pour ces femmes, comme c'est ce que dit Richelin Makwaya.
Oui, c'est tout à fait normal. L'encadrement va apporter à cette catégorie-là de femmes plusieurs informations.
Et qui doit les encadrer?
Bon, les encadreurs, souvent, ce sont des techniciens de développement. Au niveau de la formation universitaire et académique, vous avez au pays les instituts supérieurs de développement rural. Le gouvernement de la République, en créant ces institutions-là, avait un objectif. C'est-à-dire, entre ces cadres universitaires et le paysan, il devrait y avoir une synergie pour que les cadres universitaires apportent leurs connaissances du point de vue de la technologie de production, de manière à savoir comment ils doivent gérer les espaces, comment ils doivent gérer même leurs produits, comment ils doivent faire le stock. Parce que après tout, les semences doivent être stockées. S'il y a rupture de semences, en ce moment-là, il y a aussi rupture de production. Donc, ce sont ces techniciens-là formés dans nos instituts supérieurs de développement rural qui devraient porter des informations à ces femmes ou à tous ces paysans-là. Ça, c'est très important, l'aspect encadrement. Mais il y a aussi l'aspect sensibilisation. Lorsqu'il y a des droits qu'ils doivent, en fait, bénéficier, ce sont justement les encadreurs qui sont, en fait, qui ont des connaissances et qui doivent transmettre à ces paysans et à ces paysannes pour qu'ils savent que, à tel niveau, nous avons tel droit. Prenons un cas assez pratique. Dans un espace, prenons de 500 hectares, qui est dans un milieu rural, et que l'État envisage d'ériger un projet industriel. Mais on doit savoir donner l'information à ces paysans-là, qu'ils comprennent que l'État vient avec un projet industriel, et que eux, ils ne peuvent pas être écrasés, mais ils doivent accepter ce projet-là qui est au bénéfice de la communauté, et que eux, ils doivent continuer leurs activités comme ils se faisaient dans le temps. Nous avons ici l'exemple de complexe industriel de Bukangalonzo. Mais malgré la présence du complexe industriel de Bukangalonzo, mais les paysans doivent continuer leur vie. Ils doivent produire, ils doivent travailler. Ils ne peuvent pas être écrasés.
Mais je sais qu'ils ont cru avec ces complexes, leurs activités vont se porter mal.
Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire.
Ils n'ont rien à craindre. Donc, ils doivent continuer à travailler comme par le passé.
Bien sûr, bien entendu, ils doivent travailler. C'est comme ça, l'encadrement doit jouer un rôle très important à travers ces techniciens qui sont sur terrain pour porter l'information, pour dire, voilà, il y a des industriels qui travaillent à côté de vous, mais vous, vous avez aussi le droit de travailler parce que vous devez non seulement sécuriser votre alimentation, mais aussi faire face aux problèmes que vous avez à travers vos différents ménages.
Voilà, il y a également Bénédiction Migo qui nous écrit depuis Bukavu au sud Kivu, nous écrit ceci. À mon humble avis, je pense que les institutions de microfinance doivent jouer leur rôle en octroyant aux femmes des crédits à un taux raisonnable pour espérer à l'autonomisation totale de la femme et la création de petites et moyennes entreprises par cette dernière. Ça, c'est Bénédiction Migo qui revient encore sur les institutions de microfinance.
Ok. C'est vrai, par rapport au taux, le taux ne peut pas excéder, en principe, lorsque on mène une enquête dans ces différentes IMF. Très généralement, leur taux varie entre 10% et 12% l'an. Mais en réalité, quand vous devez analyser en profondeur cette pratique de fixation de taux, ça devrait être peut-être entre 5 et 6% au maximum l'an. Pourquoi nous disons cela? Ce que Migo Bénédiction dit est tout à fait correct, parce que dans ces milieux-là, l'argent circule difficilement. Et quand vous prenez des taux tels qu'appliqués au niveau de centres urbains, en ce moment-là, vous asphyxiez cette catégorie-là de producteurs agricoles, c'est-à-dire de femmes paysannes, mais aussi en leur accordant de taux préférentiels, vous allez rendre ces femmes-là beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives, et elles deviendront autonomes, évidemment, vis-à-vis de grands commerçants qui sont des exploitants, et en ce moment-là, elles auront une assurance sur leur promotion en tant que ménagère, mais aussi en tant que leader femme. Parce que c'est dans ces milieux-là de la base qu'elles doivent être formées pour qu'elles, au plus tard, elles vont occuper des postes de gestion au niveau de leur entité de base. Au lieu de voir que d'autres femmes qui vivent dans des villes puissent aller, en fait, les étouffer dans la gestion des affaires publiques au niveau des entités de base. C'est ce que notre ami Migo dit, c'est dans ce sens-là. Donc, lorsque les IMF accordent beaucoup de privilèges à l'application de taux, à ce moment-là, les IMF étouffent justement les femmes d'aller vers les institutions de microfinance.
Alors, on va prendre rapidement Michel, qu'on a retrouvé. On espère que cette fois-ci, ça va marcher. Michel, vous nous appelez du Camina. Bonjour Michel.
Bonjour Maxime.
Alors, on vous écoute Michel. Quelle est votre question?
Non, j'ai seulement une petite préoccupation. J'ai bien suivi votre invité. Donc, quand elle parle des femmes paysannes, vous voyez qu'il y a même d'autres femmes qui travaillent, qui qui font des activités de champ. Et quand seulement elle récolte là, elle récolte, mais quand seulement elle vend ça. Mais pour seulement économiser une petite somme, aller déposer à la banque, ou peut-être son mari va l'interdire à toutes ces femmes, comment faire pour le développer?
Voilà, merci. Michel, d'avoir appelé de Kabina. Vous avez suivi, ingénieur Bizarre, ces préoccupations de Clément, une femme qui produit, qui vend, mais bon, qui peut-être que son mari essaie de la compliquer pour aller déposer l'argent en banque.
Oui, là c'est un problème purement complexe et je pense que dans tout ménage, il y a un problème d'entente.
Oui.
L'homme et la femme, en principe, devraient avoir la même vision. Et cette femme-là n'épargne pas pour son bien personnel, mais cette épargne-là, c'est pour l'intérêt collectif du ménage, pour les enfants, la santé, l'éducation, même la sécurité alimentaire, ça peut vous aider. C'est pour eux que pendant que la maman est encore valide, il y a des économies. Mais lorsqu'elle tombera elle-même malade, vous imaginez un peu la maman malade, elle peut même être victime d'un accident, elle n'ira plus au champ. Donc, je pense que si une femme a une telle pensée, l'homme ne peut qu'appuyer. Je vois très mal un homme qui va interdire le parc. À ce moment-là, il est vraiment un destructeur au sein de ces ménages-là. Mais le conseil qu'on doit donner, c'est justement d'encourager cette maman-là de bien pouvoir gérer ce qu'elle a produit après la vente. Elle peut justement épargner. Et dernièrement, vous aviez suivi, il y avait le JIE, la Journée internationale de l'épargne. On insiste, c'était du 28 octobre au 31 octobre, oui. On doit pouvoir épargner. Et ce sont les femmes d'ailleurs qui sont en fait la cible la plus visée parce qu'elles constituent la source justement de notre économie nationale.
Mais dites-nous, ingénieur Bizaboya, vous êtes acteur de développement. Est-ce qu'à votre niveau, vous faites également un effort pour sensibiliser les femmes, notamment pour ce qui est de l'épargne?
Oui, bien sûr, nous le faisons. Il y a un groupe important de mamans qui reçoivent nos conseils techniques, c'est-à-dire les mamans de F4B, un groupe de mamans qui sont dans la transformation agro-industrielle, et en fait agro-artisanale de produits alimentaires et non alimentaires.
C'est où?
C'est ici à Kinshasa. Et nous pensons que c'est...
Et qui sont organisés en association?
Oui, ils ont un groupe d'intérêt économique, GIE.
Et qui ont pu bénéficier d'un financement?
Bon, jusque là, non, et nous tendons vers, en fait, cet appui-là.
Mais dis-moi, ils sont déjà organisés en association?
Très organisés, oui. Très organisés, à telle enseigne que, même hier, nous étions en réunion avec ces groupes-là pour qu'elles comprennent l'importance de pouvoir être ensemble d'abord et poser le problème de façon commune. Pour bénéficier et que chacune d'elles puisse pouvoir s'organiser par rapport à son unité individuelle, mais pour le bénéfice collectif. Donc c'est très important et ce travail de la sensibilisation, il peut sembler être mince, mais il est tellement complexe. Parce que là-dedans, il faut articuler à travers des ateliers, non seulement d'information, mais aussi de formation.
On va poursuivre le temps d'accorder la parole à une dame qui nous appelle de Kinshasa, c'est Madame Pacifique. Madame Pacifique, bonjour.
Bonjour Marcel.
On vous écoute. Quelle est votre question par rapport à ces sujets sur comment aider la femme paysanne à se développer?
Moi, je voulais poser la question à l'invité. Pour moi, parce que l'entendre, il a dit le microfinance n'accorde pas l'argent et les crédits aux femmes, donc à la personne, une seule personne. Alors, il ne peut pas avoir une forme d'organisation au sein, parce que la plupart des femmes ne savent pas quelque chose comme intellectualité, je vais dire ça. Alors, il ne peut pas organiser, il faut avoir une bonne organisation pour pouvoir dresser ces femmes vers le microcrédit, parce que la plupart qui travaillent n'ont pas de matériel, et c'est un peu difficile à travailler. Si, je ne sais pas, le gouvernement ou le ministère d'Agriculture organiser, faire quelque chose comme organisation pour initier ces femmes, comment prendre le microcrédit. Et s'ils peuvent le faire, ce serait mieux, je pense.
Merci, Madame Pacifique. Merci d'avoir appelé de Kinshasa, ingénieur Bizaboya.
Ok. Madame, d'abord, bonjour. Très bien pour la question. En ce qui concerne l'organisation, très souvent, l'État accorde l'initiative aux individus. C'est-à-dire, ici je veux reprendre concernant le crédit auprès des IMF. Quand vous allez dans un bureau d'une institution de microfinance en tant qu'individu, lorsque vous êtes déjà organisé, c'est-à-dire en termes de documents, en termes de reconnaissance légale, vous avez un établissement à vous, l'IMF vous accorde le crédit. Mais lorsque vous allez individuellement, sans documents, sans rien, vous vous présentez, moi je m'appelle tel. Mais en ce moment-là, l'institution de microfinance aura beaucoup de réserves et il vous donne aussi des conseils. Parce que là, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'aspect conseil. On va vous donner un conseil, dites non. Et parfois, on vous demande de vous regrouper. Je prends l'exemple du site maraîcher RVA, puisque nous aussi, nous sommes producteurs. Il y a une institution de microfinance que je ne peux pas citer ici, mais ceux qui nous suivent savent comment cette institution de microfinance agit. Ils vous regroupent en groupe de 10-10. On vous passe aussi à une séance de formation durant 3 ou 4 jours. Après que vous ayez fini cette formation-là, en ce moment-là, vous allez signer des documents, on vous accorde le crédit. Mais il se fait que parmi vous, parmi les 10-là, tel qu'on vous a organisé, si l'un de vous n'est pas capable de payer, ce sont les autres qui vont pouvoir cotiser et payer à sa place. Donc vous voyez déjà qu'il y a des précautions que les IMF prennent. À ce moment-là, l'aspect organisationnel n'est plus une charge de l'État, que ce soit le gouvernement dans son ensemble, que ce soit le ministère de l'Agriculture ou tout autre ministère. C'est à nous en tant que demandeurs auprès d'une institution de microfinance de nous organiser. C'est comme ça que lorsque ces genres de émissions se tiennent, c'est pour porter à votre connaissance quels sont les voies et moyens par lesquels vous devez passer pour atteindre justement ces crédits. Et il n'y a pas deux voies, c'est l'organisation. C'est en d'autres termes, on parle de la structuration. Vous devez vous structurer, vous créez une petite organisation. Par exemple, ici, nous disons Organisation des femmes paysannes. C'est déjà une abréviation, OFP. Maintenant, vous allez ajouter, mais vous êtes localisé où? Des femmes paysannes de Mayanda. Voilà, ça c'est un repère. On sait que Mayanda, c'est dans tel quartier, dans telle commune, dans telle ville. Et là, l'institution de microfinance sait que elle va vous retrouver dans ces milieux-là. Et on va vous identifier et il y aura une relation entre votre organisation et l'institution de microfinance et les opérations vont se passer, c'est-à-dire l'octroi du crédit.
Voilà, si on doit récapituler par rapport à ces sujets sur comment aider la femme paysanne à se développer, vous avez dit d'abord il faut faciliter à cette femme l'accès à la terre, également mettre en place des conditions qui permettent d'écouler leur production. Vous avez également parlé, il faut les aider à accéder aux microfinances et surtout également encourager ces femmes à se regrouper en association, ce qui peut vous permettre d'accéder au crédit si possible. Alors peut-être un dernier mot ajouté.
Oui, j'insiste sur l'accès à l'information.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisant. Quand on n'a pas l'info, on n'a pas le pouvoir, comme on le dit. Mais de la même façon, quand on n'a pas l'info, on est totalement dans l'oubliette. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça que même les institutions de microfinance, ce sont des informations. Si vous ne savez pas là où ces crédits-là sont accordés, mais vous ne serez pas à mesure de bénéficier de ces crédits. Donc ça, c'est aussi un aspect très important, l'accès à l'information.
Ingénieur Bizaboya, vous êtes acteur de développement. Vous étiez notre invité pour parler de comment aider la femme paysanne à se développer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir.
Merci bien, à bientôt.